Salut à toi, auditeur de Canal B, et nous sommes contents de te retrouver pour Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée en Canal B, que tu l'écoutes en direct ou bien via le podcast de Canal B. Merci à toi.
Ça aurait été très bien si vous aviez terminé par ça, vous auriez fait en rime à la radio. Machin, vous l'écoutez en haut. Voilà.
À la radio.
Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est encore une radio Alors là, en ce moment, je sais que ça déconne parfois un petit peu, mais soyez patients, ça va bientôt remarcher mieux. Et puis c'est tout. Et puis il reste encore tous les enregistrements sur le net.
Exactement. 472e émission de Plume et Pinceau, l'émission donc consacrée à la bande dessinée. Aujourd'hui, des chroniques. Il y a de la news un petit peu peut-être.
Une.
Ouais, un petit truc chez moi aussi.
Et vous avez une chronique. Un petit auditeur en culotte courte nous a envoyé une chronique.
Ouais, voilà. Ouais,
je sais pas s'il est en culotte courte, je dis ça
si,
pour
si,
vous.
Si, 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 Christophe, 13 ans 3 quarts.
Ah, bah voilà.
13 ans 3 quarts.
Culotte courte, c'est voilà. Ça qui vous énerve un petit
il
peu.
Il a pris sa plume, ou plutôt son clavier, et il nous a envoyé effectivement une chronique. Parce que vous pouvez nous envoyer des chroniques. Vous retrouvez le lien sur le blog de Plume et Pinceau. Décidément, il faut aller voir ce blog.
Voilà. C'est fou, et ça. Il écrit de loin, je crois.
De l'autre côté de la France, de l'Est.
Voilà, donc il nous écoute par Internet.
Exactement.
Voilà.
Ouais, il ne nous connaît que comme ça, voilà. Effectivement. Et puis de la musique, encore Imelda May. Mais Imelda May, c'est inépuisable, c'est
là,
ça
là, justement. Alors justement, là où je voulais en venir, les Beatles, ils ont fait un seul morceau, sans doute. Ils ont fait Help.
Non.
Et vous nous embêtez régulièrement. Moi, c'est pareil chez les affreux grignoux, c'est pareil. Si j'ai le malheur de remettre la même interprète, ce qu'ils trouvent être je vous l'ai déjà dit, hein, c'est ma fiancée. Bon, elle le sait pas encore.
Oui, vous en avez décidément beaucoup, les fiancés. Ça vire au cheptel un peu, excusez-moi d'être...
Ah non, attention. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles ne le savent pas, donc je ne les dérange pas beaucoup. Je leur ai même pas envoyé une carte pour la Saint-Valentin, c'est vous dire.
Oh la vache.
Je suis une brute sans
cœur. La classe, la
classe. Bref, ma fiancée, Imelda May, elle va vous interpréter une chanson que c'est très gentil de mettre.
Johnny's God, boom boom.
Je ne sais pas ce qu'elle entend par ça. Johnny, hein, boom boom.
Avec Roger, c'est le retour de la contrebasse quand même.
Ah. Bravo Imelda, voilà ce que je dis. C'est à vous, je croyais.
Oui, vous. Alors apparemment, ça vous est passé un peu au-dessus, mais vous savez quand même qu'il y a eu la Saint-Valentin.
Non, je vous en ai parlé à l'instant.
Oui,
mais enfin, je vous dis, j'ai rien envoyé à mes.
Et normalement, la Saint-Valentin, quand même, tu fais un effort. C'est la fête des amoureux.
Ouais, et on envoie une carte de Saint-Valentin.
Ouais, où tu offres des fleurs. Et ben là, Glenna s'est amusée à sortir une compilation de Mafalda. Pour la Saint-Valentin, Mafalda, donc l'héroïne de Mr. Kino, Mafalda et l'amour en fait. Donc c'est une sélection de parmi tous les strips des aventures de notre petite fille Mafalda et tous ses amis, hein, Felipe, etc., etc. Une sélection autour de vraiment les scènes non pas où Mafalda est, tu sais, dans la revendication, le regard sur le monde des adultes, etc., mais vraiment les moments sentimentaux de Mafalda. Donc c'est bien pour redécouvrir Mr. Kino. En plus, Mafalda a une soixantaine d'années, apparemment, maintenant. Une grande dame. Et donc, je trouve ça plutôt sympa comme événement. Donc ça peut être aussi un cadeau de Saint-Valentin, pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin.
Mais c'est trop tard.
Oui, mais enfin, tu vois, pour l'année prochaine. Il est jamais trop tard, Roger, pour offrir.
Ouais. On va dire ça. Ouais. Eh ben moi, j'ai un article qui m'a bien fait rire parce que on parle énormément de BD, on a parlé de censure quand on balance des infos autour de la BD, trop souvent des décès. D'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est pas un décès,
c'est une naissance.
C'est un article paru dans Actua BD. Et qui fait une critique d'un article paru dans DBD. Donc Actua BD et DBD étant deux revues de spécialistes qui parlent de bandes dessinées.
Ça se pouille entre journalistes ?
C'est pas tant que ça se pouille, mais Actua BD fait part un petit peu de sa surprise à propos d'un article de DBD. Et on voit en couverture de DBD Jacobs et les pilleurs de tombes.
Ah voilà, oui, marque avec jaune. La marque jaune. Très très belle couverture.
Ouais.
Enfin, c'est Jacobs. Moi j'aime beaucoup le dessin de
Mais là c'est une reprise. Ça, c'est pas de Jacobs.
C'est une reprise. C'est autour de ses originaux, c'est ça ?
Alors, en fait, voilà, comme Edgar Penn Jacobs est mort sans héritier. Et de ce fait, il avait confié à plusieurs entités le soin de gérer les bénéfices de son œuvre, mais pas seulement les planches. Il devait y avoir des sous qui devaient être récupérés pour pouvoir sortir le dernier trois formules, la suite aux trois formules du professeur Sato.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Et au crépuscule de sa vie, comme le dit l'article, l'auteur d'Actua BD, c'était un peu tard pour devenir un capitaine d'industrie. Et en fait, un des responsables donc de la gestion des biens d'Edgar Penn Jacobs s'appelle Philippe Bermier, et il est reproché à Philippe Bermier par les éditions d'Argo le Lombard d'avoir détourné l'argent, spolié, faire disparaître des planches, etc. Et ça fait du bordel dans le Landerneau parce que, en fait, si vous voulez, tous les gens qui sont cités, ils sont toujours vivants, etc. Le journaliste d'Actua BD n'hésite pas à dire que la façon dont DBD a tourné son article devrait lui valoir pas mal de procès en diffamation.
Il a osé.
Et ils le disent, Ils le disent dans Actua BD. C'est de la vieillesse. Ils se sont servis de sources un peu ressucées, pas vraiment fait de la. Retour aux sources, comparaison, etc. Et puis, ils ont essentiellement donné la parole aux plaignants. Ce qui fait que, en fait, d'enquête, ça se résume à un portrait à charge. On peut dire qu'on s'en fout, vous et moi, par exemple, de cette histoire-là. C'est plus, si vous voulez, sur la dimension autour de la bande dessinée qui est devenue notamment tellement importante et source de profit qu'elle peut engendrer les mêmes choses qu'on pourrait avoir pour la correspondance de, par exemple, c'est ce qui s'est passé après la mort de, c'est un mauvais exemple, mais de Céline, par exemple, vous voyez, avec qui vont les droits, etc., quand la personne meurt sans héritier direct.
Ouais.
Et la bande dessinée maintenant, surtout quand il s'agit de chefs-d'œuvre du
patrimoniaux quasiment. Ouais.
Et puis des choses qui par ricochet, en fait, les planches elles ont disparu, mais après elles ont été revendues et puis elles continuent à être vendues parce que les collectionneurs, ils meurent et donc les planches se retrouvent sur le marché. Et si à la base la planche a été détournée, si vous achetez cette œuvre là, dans le meilleur des cas, on dira que vous étiez de bonne foi et vous n'aurez pas d'amende, mais l'œuvre vous sera retirée, mon bon ami.
C'est Dargo ou Lombard qui a encore les droits sur
Et c'est eux qui sont qui
qui ont encore les droits sur le, d'où la possibilité de, enfin les possibles nouveaux, enfin les nouveaux épisodes qui ont été faits quoi.
Ouais voilà. Et d'où l'origine.
Il y avait il y avait la possibilité de faire ça. D'accord. Voilà. Parce qu'ils avaient les droits.
Et okay, là le souci c'est que
là c'est les originaux en fait.
Ouais ouais, des planches,
les sources, les couves sans doute, enfin les mains, ouais les crayonnés. Mm-mm.
Voilà, bah oui, mais c'est assez impressionnant.
C'est là que tu vois que c'est une industrie, c'est un marché de l'art là aussi.
Tout à fait.
C'est les lettres de noblesse. Bon, mes chéries à moi, tiens. Moi aussi, j'ai des chéries.
Bien, mais vous êtes plus gourmand, vous en avez plusieurs.
Oui, elles sont deux. Ah. Si elles me font une petite place, c'est cool. What a waste of a pretty face, what a waste, that face, what a waste. What a waste of a pretty face, what a waste, that face. What a waste of a pretty face, what a waste, that face, what a waste. What a waste of a pretty face, what a waste, that face. Will you want me when I'm old? UK, un duo de Camden, Pretty West. Moi, voilà, ça, c'est des rythmes modernes, mon robot.
Différence, bon. Mais maintenant, attention, je veux pas dire que votre morceau n'était pas bien, il était très très bien pour 2024, certainement.
Voilà, mais nous sommes en 2024, Roger, ça va peut-être te surprendre.
Moi, je suis en 66 aujourd'hui, c'est clair. Puis c'est tout.
C'est clair, vive Kennedy.
Il est mort, on est en 66.
Ah merde. Ceci étant, on a reçu du courrier.
Ah.
Alors donc le petit Christophe, apparemment 13 ans 3 quarts, nous a écrit effectivement de Metz dans le 57. Et il écrit « Salut les plumes et pinceaux, un petit coup de cœur, je serais très content qu'il passe dans votre émission, trop génial, smiley, 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 smiley ». Alors il nous envoie. Alors il y a eu plein d'histoires du jeu sur la bête du Gévaudan.
Oui, j'allais vous le dire.
Alors qu'est-ce qu'il y a... enfin, c'est pas pour me moquer, mais là ils ont choisi le titre Les griffes du Gévaudan.
Bah oui.
Parce que la bête, ça devait être fait. Le loup, ça devait être fait.
Le mais... diable.
Ouais, le diable du Gévaudan, etc. Alors je dois avouer que quand j'ai reçu la chronique, je me suis dit, encore un truc sur le Gévaudan. Bon, effectivement.
C'est encore un truc sur le Gévaudan.
Mais alors, voilà. Gévaudan, 1760, les meurtres, les cadavres décapités, tu sais, les jeunes filles, tout ça, tout le monde a peur, mutilation, couronne de France en danger. Et puis Louis XVI envoie un homme sur place pour essayer d'enquêter, quoi. Hein. Il s'appelle François Antoine et il va nous proposer de percer le mystère de la bête du Gévaudan qui reste encore à ce jour, nous écrira Christophe, après toutes ces années irrésolues. Il y a quand même une centaine de meurtres, donc c'est vrai que c'est pas n'importe quoi comme histoire, quoi. Et en fait, on redécouvre tout ça avec toujours ce côté croyance, meurtre, manipulation politique, nous dit Christophe. Et l'alchimie prend super bien. Prend super bien. Faut dire que c'est une relecture par Sylvain Rønneberg, et effectivement, là-dessus, je rejoins ce jeune garçon, Christophe. Sylvain Rønneberg, nous, on l'a rencontré au dernier Quai des Bulles, et puis effectivement, il sait raconter des histoires, quoi. Donc qu'il s'empare de ce mythe, j'ai envie de te dire, et on arrive encore à en tirer une approche nouvelle, j'y crois. En tout cas, il a trouvé ça, le petit Christophe, comme un thriller palpitant, avec des dessins effectivement léchés, c'est vrai. J'ai été regarder, je trouve la couverture très réussie. On a vraiment une sacrée bestiole comme ça qui surplombe la ville, avec des lumières... ouais, gris. Enfin, en plus, les Gévaudan, c'est dans un coin tellement sympa. C'est tout grisou, c'est tout dégueulasse. Bah,
c'est marrant parce qu'aujourd'hui, le Gévaudan, on dirait, c'est du tourisme vert.
Ouais, c'est clair. Voilà, c'est du tourisme vert qui tourne mal avec cette histoire.
Vous connaissez, vous avez fait un an dans le Berry.
Oui, oui.
Est-ce que le Berry, ça ressemble un peu au Gévaudan?
Ah, peut-être, dans le côté naturel et naturel.
Et là où on se fait chier.
De toute façon, après, c'est des endroits très safe. Si tu entends du banjo, tu t'en vas. Après, c'est super, le Berry. Voilà, mais s'il y a du banjo, tu t'en vas. Bien. C'est règle de base. En tout cas, Christophe nous conseille vraiment les griffes du Gévaudan. Donc, ça paraît chez Glénat, ce sera un diptyque. Sylvain Rønneberg a pris les commandes et nous propose une relecture. Donc, et c'est dessiné par Jean-Charles Poupard. Merci à toi, Christophe, jeune garçon, de nous suivre. Et comme tu dis, si tu nous trouves trop génial, ça nous fait plaisir.
Voilà, est-ce qu'il a dit ne changez rien? Surtout vous, Roger, est-ce qu'il dit ça?
Non. Il dit qui est le vieux monsieur avec toi. À la
fin. Ouais, je sais pas si on passera sa chronique la prochaine fois. Ça y apprendra.
En tout cas, n'hésitez pas à écrire vous aussi.
Yes, c'est à moi. Alors je passe vraiment
du piaf. Ouais, je piaffe d'impatience.
Vous piaffez, là. Et je passe un peu du coq à l'âne puisque après cet ouvrage, certes intéressant, fort bien chroniqué d'ailleurs par le petit. Vous m'avez dit le petit Christophe.
Christophe, salaud, juste quand je suis en train de boire une gorgée, tu me poses une question.
Et comment le... Bien, 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 Christophe, merci à toi. Et justement, je te conseille, pour te reposer de lectures aussi éprouvantes que les griffes du Gévaudan, de dévorer l'événement littéraire de la rentrée, Ratige Poche numéro 2, 10 € simplement aux éditions Les Requins Marteaux, tout le monde s'en doute bien, dans la collection Poche Pocket. Numéro 2. Je vous ai déjà énormément vanté.
Énormément.
Énormément le Ratige Poche numéro 1. Je fais le siège de la boutique dont nous tairons le nom depuis fin août, je crois, depuis que j'ai appris.
On appelle ça du lobbying. Hein.
Voilà, voilà. J'ai même demandé au Requin Marteau s'il voulait me filer. J'aimerais bien un peu de matériel de vente. Et je me vois bien,
c'est
moi.
Ça, du matériel de vente.
Ouais, voilà. Un petit peu de matériel de vente.
Tu peux, quoi, un truc.
Devant la librairie dont nous tairons le nom. Pour effectivement faire la racole pour Ratige, parce que c'est fabuleux. Pourquoi ? Parce que Ratige, pour les vieux crabes comme moi, c'est une machine à remonter le temps. Je l'ai, la machine à remonter le temps de Monsieur H.G. Wells. Je l'ai dans les mains, dans Ratige Poche. Et c'est bien, j'aimerais bien que Monsieur Ratige Poche, si tu pouvais devenir mensuel, ce serait super pour un vieux con comme moi, parce que je kifferais trop. On retrouve dans Ratige Poche tous les ingrédients des petites BD humoristiques qui faisaient notre bonheur, c'est-à-dire des bestioles vaguement anthropomorphiques, avec des gants, souvent des gants, quatre doigts, comme le veut la règle, hein, chez Mickey, ouais. De ces personnages. Et on retrouve la vie des êtres humains à travers les aventures de petites bestioles qui sont habillées, qui se comportent comme des êtres humains. En fait, Ratige Poche se déroule plus ou moins, mais pas seulement, mais aussi un peu à l'extérieur, dans une petite ville situé sous la ville des êtres humains. Donc, nos bestioles...
Attendez, parce que là, vous êtes en train d'essayer de me le vendre style Placide et Museau, mais je connais votre humour.
Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'à la lecture des artistes qui concourent au talent de cette BD, on a... Alors, ils auraient dû le mettre encore un peu plus petit, putain, sans déconner. La plupart de leurs lecteurs ont plus de 60 ans. Ils ne s'en rendent pas compte. Alors, on retrouve naturellement au sein de la rédaction Marc Pichelin, au dessin Boris Miroir pour la couverture, Bob pour le début des aventures de comment Belette et Ciboulette, comment Besseron, vous savez Besseron, vous connaissez, c'est lui qui a eu l'humour, il a eu le prix d'ailleurs effectivement, Charlie Schlingo, c'est ça.
Oui, vous l'avez même pas annoncé.
Mais
cette
non,
année.
Je l'ai même pas annoncé.
Même pas annoncé,
alors que c'est le seul prix qui m'intéresse à Angoulême, mais ça tombe bien parce qu'effectivement Monsieur Besseron, il m'arrive de chroniquer régulièrement ses œuvres qui sont pas dénués de talent, puisque c'est absolument génial.
Et tu sais ce que tu gagnes ?
Ouais, une caisse de bouteilles de rouge.
Deux caisses de Saint-Émilion.
Oh, trop bien. Bravo, monsieur Besseron, justice vous a été rendue. Donc, je reviens à mon ratiche-poche. on retrouve cette fois-ci donc dans l'album Besseron, Guillaume Gers, Terreur Graphique, Tanguy Jossic, Louise Collet. Donc plus ça va, effectivement, on retrouve tout ce que la bande dessinée française compte comme beau linge.
Il y a Gers,
ouais, bah
de Gers et Pichelin.
Gers et Pichelin qui sont, on va dire, je vous dis, Monsieur Pichelin est à la rédaction, et Gers et Pichelin sont véritablement les, comment pourrait-on dire, les chevilles ouvrières de...
C'est marrant parce que j'ai conseillé ça il n'y a pas si longtemps. Les perdants seront des gagnants à un copain qui est venu manger le week-end dernier et qui ne connaissait pas. Je suis retombé là-dessus. Et je me suis mis à remire ça, c'est énorme. Ça, c'est des histoires de bistrot.
Bah, c'est un peu ça qu'on retrouve dans Ratiche-Poche, mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils essayent...
On est plus proche de Groland que de Placide et Museau, je suis d'accord.
Alors, attention. Même Monsieur Besseron sait se tenir. On voit les personnages de...
C'est vrai, après Zozo le clown,
il a les aventures de Bajou. Bajou, c'est un espèce de petit cochon d'Inde qui est dans une, comment dirais-je, dans une animalerie, et il essaye de se faire vendre, en fait. Il essaye de se faire acheter, et il n'arrive pas à se faire acheter. À un moment donné, il se met une bombe aérosol dans les yeux pour se faire des yeux mignons. Ou se faire des gros yeux, et on voit un gosse qui dit à sa mère: oh, il est tout bizarre cet animal. Et la mère dit: ouais, on dirait qu'il est malade. Et si on prenait plutôt le petit lapin, il a l'air en pleine forme. Ouais, un petit lapin. Et notre ami Bajou de dire: on va dire que j'ai rien vu, rien entendu, de toute façon je vois plus rien. Bref, voyez comment Monsieur Besseron, alors qu'il est quand même désormais titulaire
du prix Schlingo,
vous savez qu'on en a déjà reçu à deux reprises des titulaires du prix Schlingo. On a reçu
Monsieur Besseron, on l'avait reçu, et oui, ouais, le prédécesseur,
pas encore,
un homme avec des jolies chemises à fleurs, un grand baraqué.
Ah voilà, que vous êtes en train de coller. Comment le jardin, sa dernière
c'était le jardin.
Oh, j'ai même oublié le nom du jardin, aidez-moi. Et puis on a des
tu
pages.
Veux que je te le dise ou pas?
Bah maintenant vous savez, vous l'avez regardé.
Non, je le sais.
Alors c'est qui?
Laurent
Houssin.
Ouais.
Et Monsieur Nicobi aussi qui l'a eu le prix.
Ouais. Voilà. Salch l'a eu, Bouzard l'a eu. Ouais. C'est sûr que c'est plus votre cam.
On va le dire. On va dire que le prix, ouais, Charlie Schlingo, c'est un peu ma cam. Le hamster. Vous allez apprendre sur une page tout ce que vous pouvez savoir sur le hamster. Le hamster appartient à la famille des Chrysetinae, qui signifie crétin en latin, à ne pas confondre avec le cobaye vulgairement appelé le cochon d'Inde, qui fait lui partie de la famille des Cavidae. Ce petit rongeur se domestique très bien, il est très apprécié par les enfants qui adorent les ridiculiser et les maltraiter pour faire des vidéos qu'ils postent en grande quantité sur Internet. Voilà, on retrouve effectivement, en plus, cadeau, il y a le cahier de dédicace. Désormais, vous pouvez guetter messieurs Gers, Pichelin, Terreur Graphique, Besseron et Bob pour pouvoir,
en tourner chez votre meilleur caviste.
Voilà. Gratiche Poche numéro 2, édition Le Requin Marteau, collection Pocket Poche. N'hésitez pas à menacer de procès votre libraire s'il refuse de le commander. Vous savez que j'ai eu des mots, j'ai failli avoir des mots avec le libraire dont nous tairons le nom. Heureusement, ils ont rattrapé l'affaire. Vous ne vous rendez pas compte que quand je suis arrivé à la date dite, même deux jours, je leur ai donné deux jours pour aller chercher mon Gratiche Poche. Et déjà, ils en avaient commandé que deux. Et
vous
en plus,
êtes tout seul en même temps.
Et en plus de ça, vous savez quoi? Ils avaient oublié de le commander.
Oh.
J'ai cru que j'allais tout péter dans la boutique aussi. Bon, comme je suis un peu nigo, ils m'ont détourné l'attention sur une autre BD. Ils ont réussi à me vendre quand même une autre BD. C'est à ça qu'on voit le professionnalisme
de sérieux de la maison,
de gens charmants. Ils vous vendent votre chemise. Et la semaine suivante, je suis retourné le chercher et ils me l'ont offert.
Ah, gentil.
C'était gentil. Aussi, je ne les traiterai pas en procès. On a assez parlé de justice, tout comme ça, tout à l'heure, dans notre rubrique. Je remercie donc cette librairie dont nous tairons le nom. Et je remercie aussi messieurs Gers, Pichelin, Boris Miroir, Bob, Besseron et Terreur Graphique de nous avoir permis de voyager dans le temps. Merci.
Interlude musical. je reconnais, j'étais cherché un peu loin.
Vous pouvez vous foutre de ma gueule.
Je me suis arrêté avant les années 60.
Ouais, parce que au moins 66, peut-être, déjà, c'est pas 66, déjà. Même si c'est largement inspiré d'un style, certes, comme en des années 60. Mais il n'empêche que votre morceau, regardez, j'ai l'impression qu'il fait déjà nuit alors qu'il est même.
Ah, bah moi, je me suis arrêté dans les années 80 avec les Psychedelic Furs, effectivement, Sister Europe. Alors, on avait dit avant, on va se faire une chronique spéciale, homme en jupette, Romain, sandalette. Et là, d'un seul coup, il y a Bertrand qui est rentré dans le studio. C'est bizarre.
Mais moi, je verrais
bien. Il a une tête de légionnaire, vous trouvez
moi,
pas?
Moi, je le verrais bien entraîneur, vous savez, dans les, dans les écoles de gladiateurs.
Ouais. Avec un petit fouet.
Ouais, avec un fouet. Et il est là, tiens, putain, celui-là, il se bat pas assez bien. Alors, allez-y, c'est vous qui commencez sur Romain Jupette.
Ah, bah oui, oui. En fait, je voulais déjà en parler la dernière fois et puis j'ai pas eu le temps. Quand même, Brigantus, c'est le nouveau Herman. Et ça se rate pas, là, un nouveau Herman. En plus, je trouve que la couverture, là aussi, c'est très réussi, comme Herman sait les faire. Alors, Herman est avec son fils, Yves H. Hein, Yves Herman. C'est l'histoire de, donc d'un groupe de Romains qui sont en train d'avancer dans la en Calédonie, dans
alors
le pays
là, ça,
des
c'est
Pictes.
Vraiment, c'est comme, vous savez, souvent dans les films...
Même, ça se passe toujours mal quand ils vont chez les Pictes.
Ouais, et puis ça, c'est pareil en Germanie, c'est bouffe, les zones...
C'est les coins tout brouillardeux, tu sais, avec des forêts ou des landes, enfin, et puis les gens, ils sont... Sous les deux rudes, ils sont plutôt rudes.
Voilà, en fait. C'est pour finir, on est obligé de construire un mur.
Ouais, c'est
pour
mieux.
Pour finir, c'est
ça
mieux.
Ça les arrêtera.
J'espère.
Bref, là, on suit une unité romaine donc qui pénètre au cœur de la Calédonie. C'est quand Rome essayait de pacifier ce bout de territoire, là, après la conquête de l'Angleterre. On est en 84. Donc, cette légion s'avance dans les brumes du nord de l'Écosse. Et puis, on va suivre un personnage, Melonius Brigantus. Il donne son nom à ce premier épisode d'un diptyque. C'est une espèce de grosse baraque. C'est vraiment le légionnaire, tu sais, comme dans tous les sens du terme. Une espèce de
machine
type
de
musculeux. Ouais, un guerrier de première, discipliné, etc., etc. Mais alors, il n'est pas du tout aimé dans sa légion. Il y a des types qui en fait s'acharnent sur lui, c'est une histoire qui le harcèle, on pourrait dire. Et évidemment, notre légion va tomber dans un guet-apens après avoir foutu un peu la merde parmi les Pictes. Et évidemment, il y aura que quelques survivants qui courent
dans la lande et
la brume pour échapper aux Pictes. Il y a notre Brigantus avec les deux types qui le détestent le plus et un jeune bleu qui est un petit peu, on va dire, le témoin de cette guéguerre interne, de ce règlement
Odyssée.
De compte.
Là, il rentre pour s'échapper des Pictes, il repart vers le sud.
Ouais, le but là, c'est d'essayer de rechoper, de rejoindre un camp romain, quoi, parce que le Picte est rugueux, comme je te l'ai dit. Mmh. Et là, il est en mode un peu vengeance prédateur. Il s'est peint en bleu. Quand le Picte est peint en bleu,
il va prévoir des
coups. Ouais, t'y vas pas. Enfin, tu vois, tu sors pas. Et donc, tu vois, c'est presque un survivaliste, en fait. Plus qu'un truc historique. Et alors, bon, bah, c'est le dessin d'Hermann, quoi. Et on a beau dire, mais lui aussi, il sait faire le casque romain. Il sait faire les plissés des tuniques rouges qu'ils ont. Il sait faire les armures. Il sait faire des scènes de bagarre.
Un trait, c'est pas le même trait que... Ça fait longtemps, hein, moi, personnellement, à ma grande honte, que j'ai pas lu de Hermann. Mais là, on a affaire à un trait, je dirais, pouf pouf, vous savez, comme si il se faisait, pas qu'il se fait pas chier, c'est pas ce que je veux dire, mais moins léché.
Comment il a attaqué Herman?
Mais non, je voulais dire, ça, j'essaye d'être très très prudent dans ce que je dis, parce que là, pour le moment, je suis
plus
très
épuré, plus épuré.
Ouais. Plus brut. Ça. Regardez. Alors, c'est peut-être lié au personnage, mais regardez, c'est beaucoup moins léché. Regardez quand vous pensez.
Ben, en fait,
moi, je dis, ça fait très très longtemps que j'avais pas lu Herman.
C'est peut-être les couleurs qui te font cette impression, mais justement, moi, je trouve qu'il met bien une impression brumeuse, comme on peut imaginer la lande écossaise, quoi. Je trouve qu'il joue beaucoup avec les couleurs et beaucoup avec les gris. Bah, parce que tu peux pas péter du rose, quoi, quand tu fais la Calédonie.
Eh ben, c'est bien dommage. moi, je dis, c'est bien dommage. Et les Pictes, tout en bleu qu'ils étaient, s'ils avaient vu les Romains aux couleurs du Stade français, qui, je vous le dis, est quand même le seul club de rugby au nord de la Loire à tenir là parfois la dragée haute au club sud-loirais, eh ben, le rose n'est pas forcément synonyme de j'en foutre.
Bon, vous vous énervez. Donc là, c'est le premier épisode. Finalement, c'est un peu, tu lis facilement un petit peu l'idée générale, quoi. Tu sais très bien que ça va mal se finir, forcément, hein, un cliffhanger. Il te faut un cliffhanger quand même à la fin du premier épisode. Évidemment, Brigantus va en prendre plein la gueule. Il est un peu destiné à ça, c'est son rôle. Et on sent très bien que le deuxième épisode, on va partir sur la vengeance de Brigantus. Et que ça va chier grave.
Ouais, c'est-à-dire que façon Rambo, lui.
Ouais.
Ok. Ah,
il est plus proche de Rambo que voilà, de Enak. Que ça, oui.
Et je vous dis, j'ai l'impression que c'est. Il se lâche, vous savez, les traits pour montrer la violence de l'action. Et c'est vrai qu'il y a ce côté brumeux, très bizarre.
Ouais.
On n'est pas sur des aplats de couleurs, on est que sur des impressions de couleurs, comme ça, à chaque fois.
C'est ça.
Le bleu n'est jamais. Vous voyez, le bleu n'occupe pas forcément.
Regarde la jolie scène de bataille.
Ouais. Je vais vous le shipper
après
l'émission.
Tout est gris, tout est blanc, les armures, etc. Ouais. Et là, il y a juste des taches de rouge. Il y a des guerriers qui sont tombés, ils sont couverts de sang. Ouais, ça sprouche quand même, ça gicle un peu, je reconnais. En tout cas, c'est très réussi. Je suis content d'avoir retrouvé Herman. Je dois avouer que j'aime beaucoup ce.
Mais moi, j'en ai pas.
Jérémia.
Très longtemps. Ouais, mais Jérémia, justement.
Comment
si naturellement, on reconnaît le dessin. Vous voyez bien que au niveau des couleurs, c'est pas traité de la même façon du tout.
Oui, on a le droit d'évoluer, nous aussi.
Et là, on est sorti du gaufrier, mais c'est pas une critique. Là. J'ai l'impression que les bonhommes, ils sortent des cases. J'ai même pas l'impression qu'il n'y a pas de cases.
En tout cas, très réussi ce Brigantus aux éditions du Lombard. Herman, donc avec Yves H., son fils. Hein. Épisode 1, le banni. Un péplum bien sanglant avec sa sprouch. Ça sprouch partout.
Alors justement, moi, si j'insistais sur le trait de Monsieur Herman, c'est parce que toujours dans le domaine du roman en jupette, voici venu l'orateur, maintenant, aux éditions Glénat, que nous devons à Luca Blengino, au scénario, et David Goy au dessin. Et écoutez, c'est fabuleux. Alors là, justement, contrairement à la BD d'Herman, dont j'ai vu juste 2-3 planches comme ça que j'ai survolées,
oui.
Où on a une espèce d'un côté très moderne, en fait. Vous voyez, il n'y a pas forcément de gaufrier, les cases se chevauchent, on est dans l'action, on est dans la violence. Là, rien à voir. On est dans la BD format classique, même parfois un peu trop classique, avec
C'est le Romain qui parle chez vous, de façon.
Alors, écoutez, moi j'ai trouvé ça génial. L'orateur, c'est quoi ? L'orateur, c'est l'histoire d'un avocat romain, orateur. C'est son métier, de défendre les gens. Et cet homme-là va être chargé de défendre un prévenu suspecté et pratiquement accusé, parce qu'il y a même déjà un témoin qui a dit qu'il l'avait vu, etc., d'avoir assassiné son père. Or, il faut savoir qu'à Rome, ça ne rigole pas. Le meurtre du père, et la crucifixion, c'est une douceur à côté, vous voyez le genre.
Oui, il y a le culte des ancêtres, donc
ouais,
j'imagine.
En fait, on va vous promener dans un sac, et puis après, on va mettre plein de chats et des chiens furieux, et on va vous jeter dans le Tibre.
Vrai ?
Ouais, c'est le genre de plaisanterie qui vous attend. Bref, effectivement, le parricide, ça chie. Et il se trouve que notre orateur, eh bien, était un peu en retraite. Faut voir que on découvre l'orateur, il est dans un cimetière. Et c'est là véritablement que j'ai adoré cette bande dessinée, parce que dans cette histoire, y a déjà le scénario, cette histoire d'orateur, cet avocat qui va accepter de défendre le prévenu, sachant qu'en plus, c'est assez rigolo, mais la victime, en l'occurrence, était déjà un client de cet orateur. Donc on pourrait se croire que l'orateur serait tenté justement de faire plonger le gamin qui a tué son père, et là, non. On a affaire un petit peu, il apparaît un peu comme une sorte de Sherlock Holmes, vous savez, très, très différent de la norme, etc., mais déjà très observateur. On va en parler plus tard. Mais ce qui est fabuleux dans cette BD, c'est la façon qu'a eu le scénariste et ensuite le dessinateur de retranscrire l'ambiance et la vie quotidienne à Rome. Et cette histoire se commence dans un cimetière aux portes de Rome. Les cimetières étaient aux portes de la ville. Et dans ce cimetière, on voit un espèce de bonhomme qui est en train de balayer les feuilles mortes qui sont sur la tombe. Et il cause et il fait des offrandes, il boit un coup de rouge. Et on y voit justement le fait, il faut savoir qu'à Rome, quand on allait voir les ancêtres dans leur tombe, il y avait parfois même un petit tuyau qui permettait, on leur versait du vin, on leur versait de la bouffe. vous savez, et au corps qui était en dessous, aussi de permettre de participer encore à la vie. On leur racontait ce qui se passait. Et cette bande dessinée commence comme ça. Et puis après, on le voit se promener dans Rome pour rentrer chez lui. Et il croise une espèce de procession totalement dingue, la fête des Lupercales. Et on voit des gens qui sont couverts de sang, qui se promènent dans les rues de Rome, à moitié en train de se fouetter, des bonnes femmes qui brandissent leurs seins, etc., qui sont là, vas-y, prends-moi, chien plein de sang. Oh, oh, oh. Et c'est totalement délirant, parce que à travers toutes ces aperçus divers et variés sur la vie quotidienne, on est entièrement plongé, là on est véritablement à Rome. Ce qu'on peut reprocher justement à nombre de BD qui vont aborder ce sujet, c'est de faire l'impasse, sur tout un aspect de la vie quotidienne et qu'on connaît énormément justement grâce à Pompéi, vraiment la méga bulle temporelle grâce à laquelle on connaît même la forme du pain des Romains, quoi. Et c'est ce travail-là, d'ailleurs c'est pas par hasard si les auteurs de cet ouvrage sont italiens, qu'ils ont dû particulièrement bien travailler leur histoire romaine lorsqu'ils étaient petits et même encore aujourd'hui, parce qu'ils nous parlent énormément de plein de choses. Et l'histoire se déroule en plus au moment où on a l'apparition des premiers chrétiens. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment cet orateur s'intéresse d'une certaine manière à ce culte. Bref, on a donc ce crime et on a notre orateur qui va se livrer à une enquête. Il va surprendre son monde. Je ne vous balance pas le pitch final et le contre-pitch parce qu'il y a un super contre-coup final. Quoi. Et c'est carrément génial, on rebondit.
On va de surprise en surprise.
On va de surprise en surprise. On croit que l'histoire est finie, mais non, ça contre-rebondit. Véritablement, le scénario est virtuose, et en plus de ça, je vous dis, on est plongé dans ce monde romain avec, vous savez, le tribunal, il se rend en plein jour pour un parricide, la foule vient en nombre, parce que comme il est prétendument coupable, il va y passer, ça va quand même être le rigolo de le voir enfermé dans un sac avec des chats et des chiens. Hein. Qu'est-ce qu'on sait rire à Rome ?
Qui c'est au dessin ?
Alors au dessin, c'est monsieur...
Un italien, c'est ça que vous dites ? Et alors c'est comment ? Graphiquement parlant, c'est réaliste. Alors,
vous connaissez un petit peu, mais comment pourrait-on dire le fait. Je suis pas ça. Pourquoi ils l'ont pas traité comme ça?
En fait, la couve est superbe.
Et je vais demander si, par exemple, Bertrand était là, je lui demanderais de me dire en 30 secondes, par exemple, ça, c'est de la couleur qu'on a toujours vue. Vous savez, c'est du coup, mon avis, hein, c'est qu'on regarde cette BD là. Vous voyez, on se dit, ça va être encore un antépénultième album, etc.
Je peux intervenir ?
Voilà.
Je dirais que c'est de facture classique.
Voilà, trop classique même.
Il a les mots.
Il a les mots. On devrait l'inviter plus souvent. Ça fourre en l'air cette histoire-là, alors qu'il aurait très bien pu, si on avait laissé la main au dessinateur, la traiter, à mon sens, en bichromie, quoi. Et c'est parce que l'ambiance n'a pas besoin d'avoir une multitude de couleurs, parce que pour le reste, au final, il nous présente une Rome assez brune, en fait, au final. Ça n'a pas coûté cher, le pain. Et c'est un peu dommage, parce que pour le reste, le dessin de fort bonne qualité, je dirais, on est... Et puis, ça m'a rappelé, parce qu'on va avoir un procès qui se tient en plein air, et ça m'a renvoyé au laurier de César avec le procès, vous savez, d'Astérix et d'Obélix, qui sont jugés pour avoir usurpé la condition d'esclave et d'avoir abusé une bonne famille de patriciens romains. Et on voit les joutes des avocats, l'avocat et le procureur. Delenda Carthago ! Mais Delenda Carthago, c'est moi qui vais le dire ! Eh bien, on revoit ça, ils nous la refont. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'orateur, pourquoi ? Parce que la défense classique, comme l'accusation, en fait, les avocats et les procureurs se devaient de reprendre des grands auteurs romains et bassiner leur auditoire avec des grandes citations romaines. Ce que fait pas notre orateur, justement, et c'est là qu'il casse la baraque. Oui, il arrive avec des tas de procédés modernes, d'ailleurs, à faire exploser la vérité. C'est absolument génial. Pour moi, c'est une grande, grande découverte. Ça s'appelle L'orateur de messieurs Luca Blenghino et David Coy au dessin.
Interlude musical.
Chez Glénat.
Interlude musical, Roger Larking Poe, Art Time Killing Floor.
Voilà, deux filles aussi, mais c'est un peu différent. Thank you.
than ever been before.
J'avoue que la bande-son est un peu éclectique.
Ouais, mais justement, ça c'est du Bayou, vous allez me dire. Ça n'a rien à voir avec les Bauges. Mais ça c'est commence clair. Pareil, ça commence par la même lettre. Et quelque part, s'il avait fait plus chaud, et qu'au lieu d'être en montagne, c'est-à-dire en Haute-Savoie, que ça serait trouvé en Louisiane, eh ben, les gens ils auraient été nu-pieds, ils auraient joué du banjo.
Tout pareil.
Sauf que là, effectivement, dans les Bauges, on ne joue pas de banjo. Et puis si vous êtes nu-pieds, vous mourrez parce qu'il fait froid. L'hiver surtout. Cette vie à vivre, alors que l'on doit à Monsieur Charles Masson aux éditions Delcourt Mirage. Je ne connais absolument pas Monsieur Charles Masson qui est scénariste. Ce monsieur est né à Lyon où il réside. Il est otorino, hein, laryngologiste, et il est également auteur de bande dessinée, scénariste et dessinateur. Et je connaissais absolument rien de son travail avant de découvrir ce récit complet. Récit complet, cette vie à vivre. Écoutez, ça c'est ce qu'on pourrait appeler l'antithèse. N'y voyez pas là malice ni médisance, mais l'antithèse de la BD d'une histoire de super-héros, parce que c'est Charles Masson. Allez. Cette vie, Charles Masson, il nous parle d'un monsieur, et c'est assez rigolo, en quatrième de couverture, il nous dit « René, dont je raconte l'histoire, n'est pas parti bien loin, il n'a traversé ni continent ni océan, il a seulement quitté le massif des Bauges, où ses ancêtres avaient cru trouver la paix, pour descendre dans la vallée à peine 20 kilomètres plus bas, et pourtant il n'en est pas moins un exilé, il n'avait rien d'extraordinaire et n'était pas particulièrement aimable, il aurait pu être mon oncle, mais lui avait cette vie, alors je lui en ai fait un livre ». Et en fait, ces sept vies à vivre de ce monsieur-là font référence tout simplement aux petits frères et petites sœurs de ce monsieur. Appelons-le, comme il nous dit d'ailleurs, René, appelons-le René, dont les sept frères et sœurs étaient morts parce que à l'époque, un mauvais grippe, un mauvais rhume, une petite chiasse, etc. Et pampan, le gosse mourait, qu'il ait 6 mois, 1 mois, un an ou deux, ouais, une petite saloperie.
Ouais.
La vie était brève, et c'est l'histoire de ces gens-là qui vivent dans ces zone.
Mais c'est où alors la Bauge ?
Les Bauges, c'est en Haute-Savoie même. C'est véritablement une zone un peu isolée. Et pourquoi on y trouve des gens ? Parce que c'était les gens qui en avaient marre qu'au cours des siècles, ça monte du nord pour aller vers le sud, ça viole, ça pille, ça tue. Ça remonte du sud pour aller vers le nord, ça viole, ça pille, ça tue. Bref, plein le cul. Donc il dit, ben non, on va vivre là où il n'y a personne qui vit à part des bêtes. Et on sera plus ou moins peinard. Sauf que, bah, vous savez, avec son modernisme, la guerre finit aussi par atteindre les Bauges. C'est ce qui va se passer d'ailleurs au cours de la guerre, puisque notre René, lui, va naître avant-guerre. Hein, il va naître avant la Seconde Guerre mondiale. Il va connaître la Seconde Guerre mondiale. Il va connaître également l'amour au cours de cette Seconde Guerre mondiale à travers la personne d'une jeune étudiante qui avait rejoint le maquis. Et on découvre comme ça la vie quotidienne de ces habitants des Bauges, faite surtout d'une rigueur infernale. C'est-à-dire qu'on n'a rien, mon bon Erwan. On compte véritablement que ce que on peut produire, ce que la vache vous donne, etc. On n'a même pas de quoi élever un cochon, si vous voulez, parce qu'on n'a même pas suffisamment de reste, quoi. On vit vraiment de ce que la nature peut bien vous permettre de vous donner, mais c'est aussi ce qui leur permet d'être plus peinards, et notamment pendant la guerre, de permettre aux résistants de se planquer dans ces zones-là, qui sont quand même particulièrement inaccessibles et inhospitalières l'hiver, hein, parce que là, je ne vous parle pas des sports d'hiver, etc., et des autoroutes pour aller à Albertville. Vous voyez le genre. Et on voit la vie, on découvre ce bonhomme qui va... Charles Masson nous le décrit comme ayant, c'est assez rigolo, un espèce de contact permanent avec ses petits frères et petites sœurs. Il leur parle... ouais, je ne vous ai pas dit de bêtises, elles sont bien sept. Il leur parle, alors les petits frères, etc. Et on voit ce monsieur-là qui va la seule... Comme dit Brassens, il sort de son trou, lui, non pas pour mourir à la guerre, mais pour aller juste après la guerre, il va faire son service militaire, il va se retrouver en Afrique du Nord, il va échapper à la guerre d'Algérie, parce qu'il va rentrer avant les événements. Il va découvrir la bêtise humaine à l'armée, c'est-à-dire que lui, comme c'était un poquesse auprès des Blancs, il allait vers les soldats marocains, parce qu'il était au Maroc. Le souci, c'est que un officier va décider d'élever un cochon, et lui, en tout bon paysan, c'est lui qui va gérer le cochon. Il va lui trancher la gorge, et il va participer aux agapes. Et de ce fait, il se fait rejeter par les
Marocains.
Par les Marocains, puisque il est devenu véritablement un chien infidèle. Et il est victime de la bêtise de tout le monde. Il va finir par rencontrer une femme qu'il va perdre au bout de même pas un an, la même année que celle où il perdra sa mère. Donc vous voyez, quelqu'un qui... et c'est ça, jusqu'à la mort de sa femme, qui vivra pas longtemps, qui était enceinte de son gosse, c'était un brave homme. Et après, il plonge. Il va avoir une période où il va plonger. Et sans vous dévoiler la fin, on peut dire que quand même, ça va pas mal se terminer parce qu'il va finir par retrouver cette jeune fille-là qu'il avait connue dans le maquis, qui avait d'ailleurs toujours gardé une correspondance avec le René, dont elle sentait qu'effectivement, finalement, c'était avec René qu'elle aurait dû vivre et pas celui avec qui elle va se marier.
D'accord.
En fait, c'est une une histoire très, très touchante qui vous permet de découvrir de l'intérieur ce que pouvait être le quotidien d'un Français moyen vraiment... Moyen de chez moyen de base, qui avait le permis mais qui préférait rouler en mobylette parce que la voiture ça le faisait chier. Qui avait le téléphone mais qu'on s'en servait pas parce que le téléphone c'était fait pour apporter la mort. Et au niveau du dessin, Charles Masson nous livre là un dessin de facture ligne claire, on ne peut plus probante. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr, la référence est dans les couleurs et les traits.
Et on a l'impression véritablement avec de la trame et tout, il utilise énormément la trame, ce qui rend le dessin très très agréable. C'est véritablement quelque chose que j'ai découvert et qui m'a bien kiffé, qui est effectivement aux antipodes de ce que l'on peut trouver dans les BD d'habitude, où il arrive, forcément, il faut qu'il arrive plein de choses pour que ça soit intéressant. Lui, il lui arrive juste de vivre, avec parfois des hauts et parfois des sacrés bas. Les 7 vies à vivre de Charles Masson aux éditions Delcourt Mirage, c'est très très bien.
Ouais, j'enchaîne rapidement, parce que en fait, c'est pas du neuf, c'est une réédition. Ou plutôt un regroupement, Congo 40, Fleurs d'ébène et Congo blanc. 3 histoires courtes sont réunies par les éditions Daniel Maguen.
Un bel ouvrage du coup.
Bah ouais, qui nous propose de redécouvrir ces trois albums qui sont sortis initialement chez À Suivre, Éric Vernot et Guy Reeves. Ces trois histoires qui, où ces deux auteurs interrogent finalement leur belgitude, j'ai envie de dire, à l'aune du passé du Congo. Ces trois histoires qui effectivement remontent l'histoire du Congo belge vers la décolonisation et les relations entre dominants et dominés, colonisateurs et population africaine sur place dans la moiteur. C'est effectivement un bel ouvrage, une redécouverte de ces trois nouvelles qui sont donc compilées dans un album avec une belle couverture souple à rabat. Clac.
Ça rappelle parce plein que de crayonnés. C'était paru chez À Suivre, chez Casterman.
Ouais, À Suivre, effectivement, chez Casterman, plein de crayonnés, plein de dessins en plus.
Alors ça, c'est les rajouts. Ça, c'est les rajouts en plus.
C'est le petit plus Daniel Maghan, parce que là, on est dans le bel ouvrage. Tu sais bien qu'il s'intéresse à la BD, qu'il considère lui comme quasiment artistique.
Remontrez-moi la couverture du coup. Congo blanc.
Vernot, Raves, donc un album sorti aux éditions Daniel Maghan qui compile ces trois nouvelles, Congo 40, Fleur des Brèmes et le fameux Congo blanc qui donne le titre de l'album. Format 24-32, comme ça, c'est du beau livre avec un rabat et plein de crayonnés. Redécouvrez ça, cette série.
Moi, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir, années 80, avec la musique que vous nous passez, années 80, je m'étais dit, quoi.
Ah, pour être franc, c'est pas ma super cam. Mais je sais que c'est des références, notamment c'est quand même deux auteurs qui ont eu la vertu de justement d'interroger le Congo belge, quoi, en étant belge eux-mêmes.
Très esthétique, c'est intéressant, hein, pour ça. Un dessin très
Ah oui. Ouais, c'est de la BD pour adultes. Il y a de la passion. C'est torride, c'est moite, c'est africain. Ouais. Voilà qui vient clore en tout cas cette 462e émission avec une brève intervention,
472.
Mais ô combien. Ouais, une brève intervention et ô combien pertinente de l'ami Bertrand. Hein, l'éternel Bertrand. Éternellement présent dans le studio.
Moi je croyais qu'il était mort.
Il était bien là. À la semaine prochaine, bonne lecture, tant qu'on a le droit.